Chapitre 33. Voyant que la porte ne s'ouvrait pas, le petit bonhomme l'enfonça d'un violent coup de pied. Quand il fut entré dans la pièce, il dit à Pinocchio et à Lumignon avec sa jovialité habituelle
« Allons, mes enfants, vous savez bien braire. J'ai tout de suite reconnu votre voix, et me voici. »
À ces paroles, les deux petits ânes restèrent confondus et comme stupides, la tête ballante, les oreilles basses et la queue pendante entre les jambes. Pour commencer, le petit bonhomme lissa leurs poils, les caressa, les palpa, puis il sortit son étrille et se mit à les bien étriller. Quand, à force de les étriller, il eut fait reluire leur pelage comme des miroirs, il leur passa le licou et les conduisit sur la place du marché dans l'espoir de les vendre et de réaliser un joli petit bénéfice. Les acheteurs, en effet, ne se firent pas attendre. Lumignon fut acheté par un paysan dont l'âne était mort la veille. Pinocchio fut vendu au directeur d'une troupe de paillasses et de sauteurs de cordes qui l'acheta pour le dresser et le faire sauter et danser tout comme les autres animaux de la troupe. Avez-vous bien compris maintenant, jeunes auditeurs, quel beau métier faisait le petit bonhomme? Ce vilain monstre, qui avait la physionomie douce comme le lait et le miel, allait de temps en temps faire un tour avec sa voiture. Chemin faisant, à force de belles promesses et de cajoleries, il racolait tous les enfants paresseux qui détestaient les livres et l'école. Et après les avoir chargés dans sa voiture, il les conduisait au pays des jouets pour qu'ils y passent tout leur temps à jouer, crier et s'amuser. À la fin, à force de s'amuser sans jamais étudier, ces pauvres enfants dupés devenaient autant d'ânes véritables. Alors le petit bonhomme, tout joyeux et content de lui, se trouvait être leur propriétaire. Il allait les vendre dans les foires et sur les marchés. C'est ainsi qu'il était devenu millionnaire en quelques années. Ce qu'il advint de Lumignon, je l'ignore. Mais je sais que Pinocchio fut condamné dès le début à une existence très pénible et très fatigante. Quand on conduisit Pinocchio à l'écurie, son propriétaire remplit de paille le râtelier. Mais après en avoir goûté une bouchée, Pinocchio la cracha. Alors le propriétaire, en grondant, remplit le râtelier de foin. Le foin déplut également à Pinocchio.
« Ah, le foin ne te plaît pas non plus !» cria le patron courroucé. « Laisse faire, mon bel âne. Si tu as des caprices, je saurai te les enlever !»
Et comme correction, il lui donna du fouet dans les jambes. De douleur, Pinocchio se mit à pleurer et à braire. En braillant, il disait
« Hi-oh ! Hi-oh ! Je ne peux pas digérer la paille !»
« Alors mange le foin !»
répliqua le propriétaire qui comprenait très bien le dialecte des ânes.
« Hi-oh ! Hi-oh ! Le foin me fait mal au cœur !»«
Tu es d'avis, probablement, qu'un âne comme toi mérite d'être nourri de blanc de poulet et de gélatine !»
ajouta le patron, qui, rageant de plus en plus, le fouetta de nouveau. À cette nouvelle correction, Pinocchio, par prudence, se calma sur le champ et garda le silence. Lorsque l'écurie fut fermée, Pinocchio resta seul. Comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé, la faim le faisait bâiller, et en bâillant, il ouvrit une bouche large comme un four. À la longue, ne trouvant rien de mieux dans le râtelier, il se résigna à mâcher un peu de foin, et après avoir longtemps mâché, il ferma les yeux, et avala.
Ce foin n'est pas mauvais, se dit-il alors à lui-même. Mais combien il eût mieux valu pour moi que je continue à étudier. À cette heure, au lieu de foin, je mangerai un bon morceau de pain frais avec une tranche de saucisson. Hélas!
Le lendemain matin, à son réveil, Pinocchio chercha vite dans leur atelier s'il y avait encore un peu de foin. Il n'en trouva pas car il avait tout mangé pendant la nuit. Alors il prit une bouchée de paille et la mâcha.
« Hélas !»
répéta-t-il en continuant à mâcher.
« Si du moins mon malheur pouvait servir de leçon à tous les enfants désobéissants et qui n'ont pas l'amour du travail. Hélas. Hélas.
Assez d'hélas !
Cria le patron qui entrait à ce moment même dans l'écurie.
Tu crois peut-être, mon beau petit âne, que je t'ai acheté uniquement pour te donner à boire et à manger ? Je t'ai acheté pour que tu travailles et pour que tu me fasses gagner beaucoup d'écus. Donc, du courage ! Viens avec moi dans le cirque et là je t'apprendrai à sauter dans les cerceaux, à enfoncer avec la tête les cercles de papier, puis à danser la valse et la polka en te tenant tout droit sur les pattes de derrière. »
Le pauvre Pinocchio dut, de gré ou de force, apprendre toutes ces belles choses. Mais pour les apprendre, il lui fallut 3 mois de leçons et des coups de fouet à lui enlever la peau. Enfin, le jour vint où le propriétaire de Pinocchio put annoncer un spectacle vraiment extraordinaire. Le programme multicolore, affiché au coin des rues, disait ceci.
« Grand spectacle de gala. Ce soir auront lieu les sauts habituels et les exercices surprenants exécutés par tous les artistes et par les chevaux des 2 sexes faisant partie de la troupe. Enfin, on verra pour la première fois le fameux âne Pinocchio, dit « l'étoile de la danse ». Le théâtre sera illuminé à Giorno. »
Vous pouvez bien penser que ce soir-là, 1 heure avant le commencement du spectacle, le théâtre fut bondé. Il n'y avait plus une place de libre, ni au fauteuil, ni au parterre. On n'en eût pas trouvé à prix d'or. Au gradin de l'amphithéâtre, c'était une fourmilière d'enfants, fillettes et garçons de tous les âges qui attendaient avec une curiosité fébrile les danses du fameux âne Pinocchio. À la fin de la première partie du spectacle, le directeur de la troupe, en habit noir et culotte courte blanche et chaussée de bottines fines, se présenta devant la foule entassée, s'inclina et prononça avec une grande solennité l'invraisemblable boniment suivant.
« Honorables spectateurs, mesdames et messieurs, votre humble serviteur, se trouvant de passage dans cette illustre cité, a voulu se réserver l'honneur autant que le plaisir de présenter à cette remarquable assistance un âne célèbre qui a déjà eu l'honneur de danser devant Sa Majesté l'Empereur de toutes les cours d'Europe. Nous vous remercions de nous favoriser de votre encourageante présence. »
Ce discours fut accueilli par beaucoup d'éclats de rire et d'applaudissements. Mais les applaudissements redoublèrent et crépitèrent comme un véritable ouragan lorsque le petit âne Pinocchio apparut au milieu du cirque. Il avait un harnachement de gala, une bride neuve en cuir verni avec des boucles et des bossettes de cuivre doré, un camélia blanc à chaque oreille, la crinière joliment peignée et divisée en boucles retenues par de petits nœuds de soie rose, une écharpe d'or et d'argent lui barrait la taille, et la queue, toute tressée, était ornée de rubans de velours pan et bleu. Bref, c'était un petit âne adorable. Le directeur, en le présentant au public, prononça cette nouvelle allocution.
« Honorable spectateur, je ne vous cacherai pas qu'il m'a fallu vaincre de grandes difficultés pour instruire et dresser ce mammifère que j'ai trouvé, paissant librement de montagne en montagne dans les plaines de la zone torride. Représentez-vous, je vous prie, toutes les larmes qu'il a dû verser, étant donné que tous les moyens furent inutiles pour arriver à le domestiquer, et que j'ai dû bien des fois recourir au suggestif langage du fouet. Mais toute ma bienveillance ne faisait qu'éloigner de moi sa sympathie, et il me détestait de plus en plus. Cependant, je découvris un jour, dans son crâne, une petite bosse osseuse que la faculté de médecine de Paris reconnut elle-même pour être celle du bulbe générateur des cheveux et de la danse pyrrhique. C'est pour cette raison que j'entrepris de lui apprendre non seulement le saut des cerceaux et des cercles de papier, mais encore l'art véritable de la danse. Admirez-le et jugez-le.
Là-dessus, le directeur fit une profonde révérence, puis s'adressant à Pinocchio, il lui dit
« Courage, Pinocchio! Avant de commencer vos exercices, saluez l'honorable assistance, ces messieurs, dames et enfants !»
Pinocchio, docile, plia aussitôt ses deux genoux et resta prosterné jusqu'à ce que le directeur, faisant claquer son fouet, lui dit
« Au pas !»
Alors le petit âne se dressa sur ses quatre pattes et se mit à tourner tout autour du cirque, au pas et en mesure. Un instant après, le directeur cria « Au trot !» Et Pinocchio, obéissant au commandement, se mit à trotter.
« Au galop !»
Et Pinocchio attaqua le galop.
« Au triple galop !»
Et Pinocchio de prendre le grand galop. Mais tandis qu'il courait comme un cheval sauvage, le directeur, levant les bras, déchargea un coup de pistolet. À ce coup, le petit âne, feignant d'être blessé, tomba étendu dans le cirque, comme s'il eût été vraiment mourant. Il se releva au milieu d'une salve d'applaudissements, de cris et de hurrahs qui montaient jusqu'aux étoiles. Alors, tout naturellement, il leva la tête et regarda en l'air. Et en regardant, il vit dans une loge une belle dame qui avait au cou une grosse chaîne d'or à laquelle pendait un médaillon. Sur ce médaillon était peint le portrait d'un petit pantin.
« Ce portrait, c'est le mien ? Cette dame, c'est la fée !» se dit Pinocchio en la reconnaissant aussitôt.
Et se laissant vaincre par la joie, il essaya de crier « Oh, ma petite fée ! Oh, ma petite fée !» Mais au lieu de ces paroles, il ne lui sortit du gosier qu'un « hi-han » sonore et prolongé qui fit rire tous les spectateurs et les enfants en particulier. Alors le directeur, pour lui apprendre et lui faire comprendre qu'il ne fallait pas braire en présence du public, lui donna un coup de manche de fouet sur le nez. Le pauvre âne sortit alors sa langue et se lécha le nez pendant 5 minutes pour apaiser la douleur qu'il avait ressentie. Mais quel ne fut pas son chagrin lorsque, levant une seconde fois la tête, il constata que la loge était vide et que la fée avait disparu. Il se sentit défaillir, ses yeux s'emplirent de larmes et il sanglota. Personne, cependant, ne s'en aperçut, et moins que tout autre, le directeur qui ordonna en faisant claquer son fouet
« Bravo, Pinocchio ! Maintenant, faites voir à l'assistance comme vous savez bien sauter dans les cerceaux !»
Pinocchio essaya 2 ou 3 fois, mais chaque fois qu'il arrivait devant le cerceau, il se contentait de passer dessous, ce qui lui semblait plus commode que de le traverser. À la fin, il sauta et enjamba, mais ses pattes de derrière restèrent malheureusement arrêtées par le cerceau, de sorte qu'il retomba de tout son poids en avant. Quand il se releva, il était boiteux, et ce fut à grand-peine qu'il rentra à l'écurie.
« Pinocchio ! Nous voulons le petit âne ! Vive Pinocchio !» criaient impétueusement de leur place les enfants très émus par cette mésaventure de l'animal.
Mais le petit âne ne reparut pas de la soirée. Le lendemain matin, le vétérinaire examina Pinocchio et déclara qu'il resterait boiteux toute sa vie. Le directeur dit alors au palefrenier
« Que veux-tu que je fasse d'un âne boiteux ? Je ne serai qu'une bouche de pluie à nourrir. Conduis-le donc au marché et vends-le. »
Arrivé sur la place, ils trouvèrent tout de suite un acquéreur. Celui-ci demanda au palefrenier « Combien voulez-vous de cet âne boiteux ?»«
20 francs. »«
Je t'en donne 20 sous. Ne crois pas que j'ai l'intention de le faire travailler. C'est uniquement pour sa peau que je l'achète. Je pourrais en faire un tambour pour la fanfare de mon village. »
Je vous laisse à penser le plaisir qu'éprouva le pauvre Pinocchio quand il entendit qu'il était destiné à faire un tambour. Dès que l'acheteur eut donné ses 20 sous, il conduisit le petit âne sur un rocher, tout au bord de la mer. Il lui mit une pierre au cou, l'attacha par une patte avec une corde dont il garda l'extrémité dans sa main, puis il le poussa violemment et le jeta dans l'eau. Pinocchio, avec cette pierre au cou, alla tout de suite au fond. L'acheteur, qui tenait toujours la corde bien serrée dans sa main, s'assit sur le rocher en attendant que l'âne eût le temps de se noyer et de mourir, afin de le dépecer ensuite et d'emporter sa peau.